Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une histoire criminelle rare. D'abord parce qu'elle se déroule au Luxembourg, tout petit pays de 600 000 habitants, et ensuite parce qu'il s'agit d'un empoisonnement au cyanure, comme dans les romans d'Agatha Christie. L'enquête sur l'assassinat en 1999, au Luxembourg donc, de Béatrice Misnard, de son nom de jeune fille, Béatrice Vidaror. Enquête que nous débrieferons tout à l'heure avec Jean-Paul Frising, ancien procureur d'État du Luxembourg. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Sébastien Guidis.
Europe 1, Christophe Ondelat.
La scène se déroule en après-midi de juillet 1999 au Luxembourg, aux urgences de la clinique d'Aich. Un homme déboule, et cet homme à la clinique, tout le monde le connaît, Charles Misnard, le docteur Misnard. Il dirige le laboratoire de biologie de la clinique. Et là, il est avec sa femme, en piteux état.
Vite! Vite, elle vient de faire plusieurs malaises d'affilée. Elle a plus de 39 de fièvre, très mal à la tête et des frissons. D'accord, docteur, d'accord, on va s'en occuper. Rappelez-moi son nom, Béatrice. Avec un Z, Béatrice Misnard, donc, née Vidaror. Entendu, docteur, on la prend en charge.
Le docteur Lesch, qui la reçoit, pose tout de suite un diagnostic.
Je pense à un syndrome inflammatoire qui serait dû à une infection bactérienne, donc, ok, on la met sous antibiotiques, hein.
Et les jours passent. Béatrice est installée dans la chambre 218 et son mari, Charles Misnard, vient la voir autant qu'il peut. Il a fait lui-même les analyses. En vérité, c'est un Staphylococcus aureus, autrement dit un staphylocoque doré. Et comme c'est une bactérie, les antibiotiques devraient faire rapidement effet. C'est bien sûr lui qui s'occupe des perfusions, c'est sa femme. Mais les jours passent et ça ne va pas mieux. Alors au bout de 3 jours, le médecin de garde, le docteur Wurtz, décide de changer de stratégie.
On va essayer de changer l'antibiotique.
Et il a été bien inspiré. En 2 jours, Béatrice se refait la cerise. La fièvre a disparu, ça va beaucoup mieux.
Bon, je pense qu'on va vous garder encore une nuit, hein. Et puis vous sortirez demain, d'accord? D'accord. Merci, docteur.
Mais vers 18h30, l'infirmière de garde accourt chambre 118. Béatrice est toute raide et elle fait des convulsions. Et ça tombe bien, le docteur Misnard est là.
Vite, vite, elle fait un malaise.
Et l'infirmière appelle le médecin de garde.
Docteur Wurtz, c'est l'infirmière de garde ici. Il y a un problème avec madame Misnard. Elle convulse.
Ok, vous lui faites une injection de Valium. Misnard est là?
Oui, oui, docteur, il est là.
Dites-lui de pratiquer l'injection lui-même.
L'effet de cette injection est catastrophique. Son cœur se met à ralentir, sa tension chute. Et Béatrice Misnard fait un arrêt cardiaque. André, l'infirmier de réanimation, arrive.
Ok, je vais lui faire un massage cardiaque. Écartez-vous.
Béatrice est conduite à toute berzingue en soins intensifs. Elle est placée sous respirateur. Le docteur Wurtz vient d'arriver.
Ok, qui peut me remplacer pour le massage?
Ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais à 20h20, il faut bien se rendre à l'évidence. Béatrice est décédée. Et le docteur Wurtz ne comprend pas.
Enfin, je comprends pas. Elle allait très bien tout à l'heure. Elle était sortie d'affaire. Je comprends pas ce qui s'est passé. Docteur Misnard, je suis vraiment désolé, croyez-moi, mais... Avec votre accord, bien sûr, je pense que il serait sage de faire une autopsie. Oh non, non, c'est pas une autopsie qui va la ramener. Hein. C'est absolument inutile.
Et tout le monde s'en va, petit à petit. À commencer par le docteur Misnard qui est effondré. Et maintenant, il n'y a plus que l'infirmier de Réa, André, au pied du lit. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Il sort de quoi faire des prélèvements et il prend un peu de sang, un peu de salive et un peu d'urine. Et il les range dans des tubes à essai dans sa blouse. Et il quitte le bloc de Réa. Mais pourquoi il a fait ça? Un infirmier? Béatrice Misnard-Fidaror était originaire de la région de Saint-Sébastien, au Pays Basque espagnol. Et dès le lendemain, toute sa famille débarque, dont son frère qui est médecin, et qui tombe sur le docteur Wurtz.
Je ne comprends pas ce qui s'est passé, docteur. Il y avait des explications. Vous en aurez, docteur. Vous en aurez, je suis moi-même demandeur d'explications. Alors j'ai demandé une autopsie. Et regardez le certificat de décès. J'ai noté décès suspect. Donc on saura ce qui s'est passé. Rassurez-vous.
L'autopsie du corps de Béatrice Miznar-Fidaror est réalisée au Laboratoire National de la Santé du Luxembourg. Et à l'issue, le légiste est perplexe.
Je n'ai décelé aucune cause flagrante de la mort. Mais j'ai fait des prélèvements de sang et de tissus corporels pour une analyse toxicologique. On verra bien quand on aura les résultats.
Quelques jours plus tard, Béatrice est incinérée au Luxembourg. Et ses cendres sont ramenées à Villabona, au Pays Basque espagnol. Charles Miznar y va en voiture, avec sa belle famille. Et pendant la messe, il se sent bien seul. Il a la nette impression que sa belle famille lui en veut. Il ne lui parle pas, il ne s'occupe pas de lui. Il le regarde à la dérobée. Et après la messe, quand il s'agit de recueillir les condoléances...
Nire dolumen guztiak, hein? Ausartak izan.
Personne ne vient lui serrer la paluche. Comme toujours au Pays Basque espagnol, la famille offre un verre au bar juste en face de l'église. Et puis Charles Miznar passe une nuit à l'hôtel et il rentre au Luxembourg, vers les emmerdes qui l'attendent. Pour Charles Miznar, les emmerdes commencent une semaine plus tard. Quand un matin, il reçoit un courrier de la clinique d'Aïch. Il est viré. Et il est viré parce qu'il a changé lui-même les perfusions de sa femme. Alors qu'il est docteur, certes, mais docteur en biologie. Il n'est pas autorisé à faire ce genre de manipulation. C'est une faute grave. Et donc, merci d'être venu. Bye bye. C'est terrible pour cet homme qui vient de perdre sa femme et qui a fait ce qu'il a pu pour la sauver. Mais grâce aux confidences d'une collaboratrice de la clinique, le docteur Miznar comprend vite les raisons de ce licenciement express.
Je vais être très franche avec vous, monsieur Miznar. Ici, les gens pensent que vous avez tué votre femme. Ils disent que j'ai tué ma femme. Mais enfin, c'est fou.
15 jours après la mort de Béatrice, Charles Miznar est chez lui et il voit débarquer les flics.
Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Miznar ?
Oui, c'est moi.
Nous avons un mandat de perquisition. Vous pourriez commencer par nous montrer votre laboratoire ?
Mon laboratoire ?
Mais enfin, vous êtes à mon domicile, c'est pas la clinique ici.
Les policiers visitent toutes les pièces de la maison.
Bien, monsieur Miznar, vous avez 2 minutes pour faire votre valise. On vous emmène.
Et s'ils viennent l'arrêter comme ça, c'est que depuis la mort de Béatrice, ils ont mené leur petite enquête. Dès le lendemain de sa mort, ils ont interrogé le médecin de garde, le docteur Wurtz.
Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé, docteur, à partir du moment où l'alarme se déclenche. Vous étiez où, vous, à ce moment-là ?
Bien, j'étais à mon cabinet privé.
Et donc là, je reçois un coup de fil d'une infirmière. Elle me décrit l'état de Madame Miznar. Je lui prescris une injection de Valium. Et puis je saute dans ma voiture et j'arrive à la clinique vers 19h. À ce moment-là, docteur, où se trouvait Madame Miznar ?
Eh bien, elle venait d'être transférée en réanimation et elle était intubée.
Donc j'ai demandé qu'on lui administre un nouveau médicament. Et là, son cœur s'est remis à battre. Mais pas longtemps. 3 ou 4 minutes après, il s'est arrêté à nouveau. Les infirmiers se sont relayés pour pratiquer sur elle un massage cardiaque, mais voilà, ils ne sont pas arrivés à la réanimer. Et le docteur Miznar, où est-il à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Bah, il fait des 100 pas dans le couloir. Il a l'air très affecté.
Les policiers n'ont pas réussi à récupérer le matériel de perfusion.
Ah, je suis désolé, monsieur, mais après la mort de Madame Miznar, on a procédé au nettoyage de la chambre, donc on a mis tout le matériel à la poubelle, comme c'est l'usage et la règle.
Et puis, l'infirmier réanimateur, André, a fait savoir à sa hiérarchie qu'il avait fait des prélèvements en loose D sur le corps de la morte. Et donc, les policiers ont récupéré ces petites fioles. Et ils ont des questions à poser à l'infirmier.
Dites-moi, monsieur, pourquoi est-ce que vous avez effectué ces prélèvements de votre propre initiative, n'est-ce pas ?
Oui. Oui, je l'ai fait parce que ça fait longtemps que je soupçonne monsieur Missner. Ça fait 6 ans, en fait, que j'ai des doutes sur lui, depuis que sa compagne de l'époque, qui s'appelait Alice Bartz, je crois, est décédée ici, à la clinique.
Il raconte qu'il y a 6 ans, cette madame Bartz est tombée dans le coma, qu'on l'a amenée aux soins intensifs et que Missner a refusé qu'on s'acharne.
Moi, j'ai trouvé ça étrange, parce que certes, elle était dans le coma, mais elle n'était pas du tout en danger de mort. Hein. Personne n'était inquiet pour elle. Et pourtant, 2 jours plus tard, elle était morte. Officiellement d'un coma diabétique. Mais moi, je l'ai pas cru, ça.
Et vous n'avez rien dit ?
Si, avec 2 collègues, on est allé voir le procureur pour porter plainte, pour qu'il y ait une enquête, quoi.
Et alors ?
Et alors, l'affaire a été classée. L'image de la clinique était en jeu. On m'a harcelé au téléphone et j'ai dû laisser tomber.
Mais l'infirmier a autre chose à dire aux policiers, qui concerne cette fois Madame Missner, qui vient de mourir.
Je sais pas si vous êtes au courant, mais Madame Missner, elle était déjà venue, il y a 4 mois, en mars, pour une infection au staphylocoque doré.
Ah bon ? Et vous vous souvenez qui l'a soignée à l'époque ?
Ah oui, oui, le docteur Lesch.
Et donc les policiers vont voir le docteur Lesch.
Je vous confirme que Madame Missner était dans un sale état quand Charles l'a amenée ici, au mois de mars. Ses analyses de sang ont révélé une acidose importante, c'est assez typique des intoxications ou des empoisonnements. Elle m'a dit qu'elle s'était sentie mal après avoir bu un jus d'orange sorti du frigo. Elle a beaucoup vomi. J'ai demandé à Charles d'envoyer un échantillon de vomissure au Laboratoire National de la Santé, et puis ces échantillons ne sont jamais arrivés. Ils ont dû se perdre.
Ou pas. Parce qu'en interrogeant le personnel du laboratoire de la clinique, le service du docteur Missner, les policiers apprennent qu'une biologiste du labo a analysé dans le dos du bon docteur un échantillon de vomissure et qu'elle y a trouvé déjà un foyer de staphylocoque doré. Et surtout, les flics recueillent le témoignage d'une laborantine.
Moi, j'ai vu monsieur Missner manipuler des souches de staphylocoque quelque temps avant l'hospitalisation de sa femme, dans des éprouvettes que d'ailleurs je n'ai jamais revues depuis.
Oh le salaud ! Il aurait donc inoculé une première fois ce staphylocoque à sa femme, et comme ça n'a pas marché, il aurait donc recommencé. Ça paraît tellement énorme qu'on a du mal à le croire. Pendant ce temps, on a analysé les prélèvements effectués par André, l'infirmier réanimateur. Et les résultats de ces analyses sont une bombe dans cette enquête.
Alors, on a trouvé de la présence de cyanure en grande quantité, ce qui correspond parfaitement aux symptômes observés sur le corps après la mort, à savoir un raidissement des membres et surtout une carnation rosée sur le corps. C'est un empoisonnement, messieurs, et c'est un empoisonnement au cyanure.
Quel rebondissement ! Madame Missner a donc été finalement empoisonnée au cyanure. Et qui a pu lui injecter ce poison ? Eh bien, Charles Missner, peut-être, dans la perfusion, quand il s'est trouvé seul avec elle dans la chambre. Il aurait donc, à 2 reprises, tenté de lui inoculer un staphylocoque, et n'arrivant pas à ses fins, il l'aurait achevé au cyanure. C'est énorme ! C'est vertigineux. Et donc, en toute logique, le docteur Missner est inculpé d'empoisonnement et de tentative d'empoisonnement, et le voilà face au juge d'instruction.
Mais enfin, ces accusations sont insensées. Pourquoi est-ce que j'aurais empoisonné ma femme ? Son décès est un drame pour moi. Je suis défoncé depuis son décès. Défoncé.
Monsieur Missner, comment expliquez-vous la présence de cyanure dans le sang de votre femme ?
Mais je me l'explique pas. C'est à la police de faire la lumière sur ce mystère, c'est pas à moi.
Peu de temps avant le décès de votre épouse, on dit que vous avez cultivé des souches de staphylocoque dans votre laboratoire.
Oui, c'est vrai.
Et c'est mon métier d'étudier les agents pathogènes. Mais j'en ai jamais ramené chez moi.
Suite au décès d'Alice Barthes, vous connaissez Alice Barthes, le docteur Lesch vous avait chargé d'expédier des échantillons de ses vomissures au Laboratoire National de la Santé, qui ne les a jamais reçus.
Oui, ben j'en suis désolé, croyez-moi. Et les colis égarés, c'est très courant, hein, vous savez.
Bien, ça sera tout pour aujourd'hui, docteur.
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce docteur Misnard qui se trouve désormais dans une sale posture? C'est un fils d'ouvrier qui a décidé de faire des études. Il a commencé par être laborantin à la clinique d'Aich, mais à côté de ça, il a poursuivi sa formation à la fac de sciences de Nancy jusqu'à devenir, il y a 10 ans, docteur en biologie. Ensuite, il a pris la tête du laboratoire de la clinique d'Aich. À part ça, côté personnel, il s'est marié une première fois, très jeune. Il a eu 2 filles. Et puis après 22 ans de mariage, son couple a volé en éclats. C'est là qu'il a rencontré Alice Barthes, morte peu de temps après d'un coma diabétique à la clinique d'Aich. Et puis 4 ans plus tard, il fait la connaissance de Béatrice Vidaor. Et c'est le coup de foudre. Il se marie en 1997. Mais est-ce qu'on peut dire que jusque-là, personne ne l'avait jamais soupçonné de quoi que ce soit? Eh ben, pas tout à fait. Sa première femme, elle-même, a dit au docteur Lesch à l'époque que son mari avait tenté de l'empoisonner. Et ensuite, il y a eu les soupçons de l'infirmier dont je vous ai déjà parlé au sujet de la mort d'Alice Barthes. Mais mieux que ça, Béatrice elle-même, la pauvre qui vient de trépasser, a raconté à beaucoup de gens que la nuit, son mari avait plusieurs fois tenté de lui faire une picouse. Au réveil, elle n'était plus sûre de rien. Elle disait que c'était un cauchemar. Mais quand même, ça revenait souvent. Bref, les indices contre Misnard se ramassent à la pelle. Et les gens de la clinique se lâchent d'autant plus qu'il a un caractère de cochon.
Ah, il est autoritaire, hein. Et rigide et méchant. C'est un vrai connard, quoi.
Et le connard a maintenant de gros soucis à se faire. Trois mois après la mort de Béatrice, tombe le rapport toxicologique définitif. Il confirme l'empoisonnement au cyanure. Et il précise qu'on lui a injecté 5 fois la dose mortelle, laquelle est déjà susceptible d'entraîner la mort en moins de 5 minutes par arrêt du cœur. Mais là, 5 fois, elle ne pouvait pas en réchapper. Mais l'air de rien, du coup, on bute sur un os, dont les avocats de Misnard, évidemment, se délectent.
Enfin, je ne comprends pas. Avec une telle dose, la mort aurait dû être fulgurante. Or, Madame Misnard a survécu entre 18h30, heure à laquelle le docteur Misner lui-même donne la première alerte, et 18h45, heure à laquelle elle a été amenée en réanimation, et où elle ne décède qu'aux environs de 20h.
Concédons aux avocats de Misnard que c'est troublant, en effet. Et ça se complique avec l'expertise d'un médecin du CHU de Nancy. Il est expert en toxicologie.
Alors, selon les éléments à ma disposition, monsieur le juge, le cœur de madame Misnard est reparti pendant quelques minutes. Or, avec la dose de cyanure observée, c'est absolument inenvisageable. À une telle dose, le cœur ne peut pas repartir.
Et donc, vous en concluez quoi, docteur?
Eh bien, que l'injection de cyanure a été réalisée après cette courte période de rémission. Ou même, oserais-je dire, post-mortem.
Après la mort? Mais comment le poison a-t-il pu se diffuser dans le sang?
Par le massage cardiaque, pardi. C'est une hypothèse, hein. Mais sur le papier, c'est possible.
Et ça? Ça, c'est pas béni pour la défense. Parce qu'à ce moment-là, Charles Misnard n'était plus auprès de sa femme. Il n'était plus en mesure de lui injecter le poison. Et ça ouvre la porte à un raisonnement tordu, mais qui peut tenir la route. Et rassurez-vous, les avocats ne vont pas s'en priver. On a injecté à Madame Misnard du cyanure post-mortem pour faire plonger son biologiste de mari. Je vous l'ai dit, c'est tordu, mais pourquoi pas ?
Et les avocats du mari n'ont pas que ça dans leur besace. Figurez-vous qu'en lisant à la loupe le rapport d'autopsie, ils sont tombés sur une bizarrerie. Un nom qui n'a rien à faire là, Maria Diaz Rodriguez. C'est sans doute un copier-coller, un nom qui s'est glissé malencontreusement dans le rapport. Mais vu côté des avocats de Misnard, c'est pas un béni.
Nous y voyons la preuve, monsieur le juge, que le corps autopsié n'était pas celui de madame Misnard, et que donc toutes les conclusions qui en découlent sont erronées. Imaginez que l'on condamne notre client sur la base d'une erreur de cadavre. Vous voudriez cela, monsieur le juge ?
Non. Non, il ne le voudrait pas. Mais disons que ça ne le déstabilise pas beaucoup. Il est sûr de son coup. Le procès de Charles Misnard s'ouvre le 12 mai 2003 devant la chambre criminelle du Luxembourg. Il comparaît pour empoisonnement et tentative d'empoisonnement. Il risque la prison à perpétuité. Au cœur des débats, vous l'avez compris, il y a le cœur de Béatrice qui se remet à battre alors qu'il n'aurait pas dû à cause du cyanure. Les avocats de Misnard comptent s'en délecter. Ils se font d'emblée couper l'herbe sous les pieds par un expert.
Je ne pense pas que le cœur se soit remis à battre, tel que vous l'entendez. Il est fort possible que l'activité enregistrée par l'électrocardiogramme corresponde en vérité à l'activité électrique qui a été induite par les électrochocs administrés pour ranimer la mourante.
Donc le cœur ne se serait pas remis à battre. Et donc l'injection de cyanure a pu avoir lieu avant. Et donc elle a pu être réalisée par Misnard. Dans la foulée, le juge se tourne vers l'accusé.
Monsieur Misnard, dites-nous comment le cyanure s'est-il retrouvé dans le corps de votre femme ? Mais il n'y a jamais eu de cyanure dans le corps de ma femme. Je le dis et je le redis, l'autopsie s'est faite sur le mauvais cadavre. Si mon épouse avait été empoisonnée par le cyanure, elle serait morte peu après 18h35, vers 18h40, à la rigueur 18h45, mais pas à 20h. Cessez donc avec vos horaires, hein, monsieur Misnard. On n'est pas à la SNCF ici. Alors dites-nous de quoi est morte votre femme. Elle est morte d'une allergie aux antibiotiques. Le cyanure n'est qu'une mise en scène destinée à m'impliquer. Je savais trop de choses sur la manière dont fonctionnait la clinique.
Un complot, donc, mais qui ne convainc pas les jurés. Charles Misnard est condamné à la réclusion à vie. Il fait immédiatement appel. Le procès en appel s'ouvre 2 ans plus tard, en mars 2005. Et il s'ouvre sur un pataquès technique dont je vous épargne les détails. Disons que la défense n'a pas exactement le même nombre de dossiers que l'accusation. Bref, le procès est reporté. Et comme ça fait 6 ans que Misnard est en prison et que ça traîne, eh bien il obtient sa remise en liberté contre une caution de 75 000 euros. Le procès en appel reprend en juillet 2005. Et dès le début, on se dit que Misnard va peut-être sauver sa tête. Grâce notamment à l'expert de Nancy, qui a déjà témoigné au premier procès.
Nous avons mesuré la quantité d'antibiotiques, mesurée dans la poche de perfusion retrouvée dans les poubelles de la clinique. Elle est 612 fois plus faible qu'elle n'aurait dû l'être. On peut donc en conclure que ça n'était pas la bonne poche. On ne nous a pas donné la bonne poche de sérum à analyser.
Ok. Ça ne change pas grand-chose, mais ça discrédite un peu l'enquête. Un point pour Misnard. Et c'est pas fini.
Nous avons mesuré l'acidose du sang prélevée 1 heure après le décès par l'infirmière réanimateur. Cette réaction était bien trop faible pour correspondre à un empoisonnement au cyanure. Est-ce à dire, docteur, que vous considérez que l'empoisonnement n'a pas eu lieu ? Je dirais que c'est une hypothèse.
Ça n'est pas du tout ce que disent les analyses de sang qui ont mesuré le cyanure. Ça voudrait dire qu'on s'est trompé de cadavre ? Ce qui est improbable. Mais en attendant, ça fait un petit point de plus pour Misnard. Du coup, elle serait morte de quoi, Béatrice ? Le médecin expert de Nancy se met à développer une hypothèse.
Nous pensons
qu'il est absolument possible que Madame Misnard ait été la victime d'une faute médicale. Une faute que la clinique aurait cherché à dissimuler. Et à quel genre de faute médicale faites-vous allusion, docteur ? À l'injection de valium en intraveineuse qui a été pratiquée sans assistance respiratoire disponible auprès du lit.
Oh là là ! Ça, c'est pas béni pour Misnard. Et c'est corroboré par le témoignage à la barre de l'infirmière qui a préparé la seringue avant l'injection.
Moi, quand j'ai donné la seringue au docteur Misnard, j'ai constaté qu'il réalisait l'injection beaucoup trop rapidement. J'avoue que sur le moment, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait moi-même.
Autrement dit, Béatrice Misnard aurait fait un malaise à cause d'un antibiotique inadapté et serait morte d'une dose de valium trop vite injectée, sans assistance respiratoire, par un docteur, son mari, qui n'était pas médecin. Si on suit ce raisonnement, Misnard peut sauver sa tête. Sauf qu'on a oublié le cyanure et le staphylocoque doré, et la mort d'Alice Bartz, et la première défaillance en mars de Béatrice, et les piqûres la nuit. Mais eux, les jurés, ne l'ont pas oublié. Charles Misnard est à nouveau condamné à vie. Ses avocats annoncent qu'il va se pourvoir en cassation. En France, il serait parti tout droit en prison. Mais au Luxembourg, dans l'attente de la décision de la cour de casse, on le laisse rentrer chez lui. Et chez lui, c'est la France. Il est français. Et quand son pouvoir est rejeté par la cour de cassation, eh ben ma foi, il est en France. Et il refuse d'être extradé. Il va donc purger sa peine en France. Et pour débriefer cette histoire, je suis avec vous, Jean-Paul Frising. Vous avez été pendant 20 ans d'abord procureur d'État adjoint, puis procureur d'État au Luxembourg. Vous étiez avocat général au procès, c'est comme ça qu'on dit chez vous ?
Non, en première instance, on dit bien procureur d'État.
D'accord.
L'avocat général, c'est devant la cour d'appel.
Il est toujours en France, Misnard, à votre connaissance ?
D'après mes informations, oui. J'avais une information comme quoi il pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une libération conditionnelle en 2019. Mais je n'ai aucune information officielle à ce sujet.
C'est quand même étonnant qu'on ne puisse pas extrader quelqu'un entre deux pays de l'Union européenne si proches.
Oui, mais c'est une question technique. À l'époque, donc, au moment où la condamnation devenait définitive, après le rejet du pourvoi en cassation, et que Charles Misnard aurait dû réintégrer le centre pénitentiaire de Luxembourg, il était parti en France, il s'était installé en France. Et normalement, le système du mandat européen, qui était déjà applicable à ce moment-là, ne trouvait pas application à cause d'une spécificité dans la loi luxembourgeoise qui interdisait l'application du système du mandat d'arrêt européen qui permet d'extrader des citoyens nationaux vers un autre pays de l'Union. À cause de la date des faits. En effet, dans la loi luxembourgeoise, il y avait une limite temporelle, c'est-à-dire que tous les faits qui avaient eu lieu avant l'année 2002 ne pouvaient pas se voir appliquer le système du mandat d'arrêt européen, et c'est ce qui a donc empêché
l'extradition
vers le Luxembourg.
Rassurez-moi, ça n'existe plus aujourd'hui, ce genre d'incohérence.
Non, cette limite temporelle a été abrogée par la suite, je crois que c'était dans les années 2009-2010.
Alors, juste une question, est-ce que c'est mieux d'être en prison en France ou au Luxembourg ?
Bah, ça, je ne peux pas vous le dire d'expérience personnelle.
Moi, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Mon intuition me dit que c'est mieux au Luxembourg qu'en France, parce qu'en France, c'est raide.
Oui, je pense que ça dépend un peu du lieu d'incarcération. Ici, au Luxembourg, on n'a qu'une seule prison qui est relativement bien installée, mais je sais qu'il y a également un surnombre de détenus.
D'accord.
Et ça pose des problèmes. Le principe devrait être que chacun est seul dans sa cellule, et le surnombre fait que deux ou trois personnes doivent se partager une seule cellule, et
D'accord. Ça
rend les relations difficiles.
Donc dans les deux pays, c'est la même chose. Dans l'affaire Alice Bartz, sa compagne précédente décédée donc d'un soi-disant coma diabétique, il y a eu une enquête.
Oui. Au sens procédural du terme, non. Il n'y a pas eu de procédure d'enquête préliminaire comme elle est prévue dans le code de procédure. Il y a eu une enquête non officielle sous forme d'audition des personnes qui se trouvaient à la clinique, qui se trouvaient impliquées dans le traitement de Madame Bartz par le procureur adjoint de l'époque. Sur les notes que moi j'ai retrouvées, le collègue avait noté que toutes ces personnes refusaient de faire acter officiellement leurs propos et de les signer. Mmh. Or, en l'absence de ces formalités, on ne pouvait pas véritablement lancer une enquête, respectivement une instruction judiciaire, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments qui le justifiaient.
Donc elle a été classée, cette affaire. Il n'y aura pas de suite.
Elle a été reprise au moment de l'affaire Misnard proprement dite, donc de l'affaire concernant l'empoisonnement. On a introduit une procédure, mais elle s'est terminée par un non-lieu parce qu'il n'y avait pas de quoi fonder une accusation.
La question du mobile. Qu'est-ce que vous diriez sur le mobile de ce crime commis par Charles Misnard? Il a eu cette phrase, moi, qui m'a marqué. J'ai fait une connerie d'épouser cette Basque.
Oui, il y a un certain nombre de témoins qui ont fait des déclarations concernant les relations entre les deux époux, qui s'étaient donc rencontrés et pour lesquels on pouvait dire qu'il y avait eu un coup de foudre et qui se sont mariés relativement vite, donc dans les 6 mois après leur première rencontre. Et si au début cette union était tout à fait heureuse, apparemment, après une année, Charles Misnard a commencé à avoir des propos désobligeants concernant sa femme, qui apparemment ne lui donnait pas la satisfaction qu'il cherchait, au niveau notamment de sa façon de vivre. Elle était une femme très indépendante, qui avait ses propres choix, qui prenait ses propres décisions. Le couple vivait dans la demeure appartenant à l'épouse. L'épouse avait un job auprès de la Cour de justice de la Communauté européenne de plein temps. Donc elle avait sa propre vie à elle et ne correspondait pas vraiment à l'image que voulait avoir Misnard de son épouse, c'est-à-dire une épouse qui serait à ses côtés, qu'il pourrait gâter, etc. Donc une épouse plus ou moins traditionnelle qui serait au foyer familial, etc. Donc il y a eu des tensions, il y a eu une dégradation de la situation et auprès de certains témoins, il a eu des propos désobligeants et notamment celui que vous venez de citer, qu'il a fait une erreur de marier cette femme.
Mmh. Alors, moi, je vous objecte ce que j'objecte toujours. Il est tellement simple de divorcer.
Oui. Bon, et ce qu'il faut dire du motif, c'est qu'on est en pleine spéculation.
Oui.
Parce que Misnard a toujours contesté avoir tué sa femme. Il a toujours contesté qu'il y avait une mésentente entre eux, qu'il n'était pas en bon terme, etc. Donc, de son côté, il n'y a aucune déclaration qui pourrait expliquer ce qui s'est passé. Donc, on est en pleine spéculation. On ne peut que tirer des conclusions de la part des déclarations qui ont été faites par des personnes extérieures au couple.
Mmh. Moi, j'ai une hypothèse quand même, c'est que ce type soit psychiatriquement complètement tordu. Moi, je pense à un psychopathe, mais il s'y prend quand même à plusieurs reprises pour tuer cette femme-là. Il y a eu l'affaire Bartz avant, il y a sa première femme qui dit « Moi aussi, je pense qu'il a essayé de m'empoisonner, etc. » Donc, c'est un type qui n'a pas de rapport au réel suffisamment pour divorcer et qui, au fond, pense que quand on n'est pas bien avec une femme, il faut juste la tuer, quoi.
Oui, bon, une autre explication quant à la motivation pourrait être celle que il a vécu le divorce de sa première épouse après 22 ans de mariage a été très douloureux pour lui, pour sa femme aussi. C'était une véritable bataille. Alors, il semble avoir déclaré une fois, je ne veux plus vivre ça. Et peut-être quand il a constaté qu'avec sa deuxième épouse, Ça virait aussi en direction d'un divorce, il a préféré prendre une autre décision, une autre voie de sortie. Mmh. Mais également, C'est de la spéculation, parce qu'on n'a pas véritablement de déclaration à ce sujet de sa part.
Alors, vient ensuite la question des experts, ça aussi, ça revient souvent dans des affaires judiciaires, c'est-à-dire que là, on a des experts qui disent à peu près tout et n'importe quoi. Il y en a quand même un qui finit par dire que c'est sans doute une faute médicale.
Oui, c'est le professeur Manal de Nancy, mais je crois dans les deux jugements, dans les deux décisions de condamnation, jugement de première instance et également arrêt de la cour d'appel, les juges ont très bien examiné et replacé les déclarations du professeur Manel dans leur contexte. Il n'y a pas d'erreur médicale, parce que la seringue avec le Valium qui a été injecté par Misnar lui-même, d'une manière beaucoup trop intempestive, c'est-à-dire d'un seul coup, alors que l'infirmière le savait, le Valium doit être injecté de façon très lente pour éviter justement une réaction au niveau de la baisse de la respiration. Mais de toute façon, le Valium a été prescrit par le médecin en réaction aux convulsions qui ont été constatées par l'infirmière au moment de son entrée dans la chambre. Donc au moment où la crise provoquée par le poison, la cyanure, s'était déjà manifestée. Et les symptômes cliniques qui ont été constatés par l'infirmière correspondent parfaitement avec une infection avec le poison. Donc la cyanure provoque immédiatement, dès que son effet se fait ressentir, des convulsions et tous les autres symptômes qui ont été constatés, notamment la mydriase dans les yeux. Et on peut, je pense, affirmer que la patiente était déjà en mort clinique alors qu'elle se trouvait encore dans sa chambre. Même si seulement la mort officielle a été constatée par un médecin 1h30 plus tard, après les tentatives de réanimation.
Monsieur Friesing,
oui,
vous avez une longue carrière de procureur d'État au Luxembourg. Est-ce que c'est une affaire qui vous a marqué?
Certainement, oui. C'est une affaire qui a marqué non seulement moi-même, mais beaucoup d'autres personnes, toutes celles qui ont été mêlées à cette affaire, parce que c'était une affaire qui a pris 4 semaines à être débattue en audience publique en première instance. Ensuite, c'était un modus operandi, un empoisonnement par cyanure, par injection dans la veine de la victime. Les experts se sont prononcés à ce sujet. Ils ont dit, nulle part dans la littérature consultable on trouve un précédent de la même nature, où l'auteur de l'empoisonnement aurait procédé de la même façon. Donc c'est en quelque sorte, oui, c'est une affaire que je n'oublierai jamais.
Je vous remercie infiniment, Jean-Paul Friesing, d'avoir partagé tout cela avec nous.
Merci.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.